Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. L'équipe de Tonnerre de Brecht vous souhaite une douce et heureuse année 2022 avec des spectacles toujours plus nombreux. Salut Léa.
Ouais, salut Martin, c'est toi la bonne année, wesh. Heureusement que l'équipe de Tonnerre de Brecht se complète avec Violette, toujours dans nos cœurs et dans nos têtes, et Wang qui fera pour cette rentrée un petit bilan de la dernière édition du festival TNB.
C'est vrai qu'en ces temps troublés, il est toujours bon de prendre un peu de recul.
Certes. Mais avant Wang, qui aurons-nous à nos côtés pour cette grande première de 2022, Martin ?
On retrouvera Daniel Passard pour son spectacle « On ne parle pas avec des moufles », programmé le 27 janvier prochain au Tambour sur le campus de Villejean dans le cadre du festival Waterproof.
Mais avant de retrouver Daniel Passard et Wang, tout de suite, quelques actus.
Ce soir à 20h30 au Grand Logis de Bru, vous pourrez assister au spectacle de Valia Beauvieux et la mer s'est mise à brûler. Une fiction acrobatique et cinémagraphique contant l'histoire de demi-frères qui se rencontrent pour la première fois aux funérailles de leur père disparu en mer. Entre fantasmes et flashbacks, les deux partent à la recherche de leurs racines pour mieux comprendre qui est ce fantôme qui les relie malgré eux. Et la mer s'est mise à brûler est une pièce de cirque et récit qui questionne le lien fraternel, le deuil et l'écueil de la virilité à un âge où l'on verrouille ses peurs, son cœur et ses émotions. C'est à retrouver ce soir à 20h30 au Grand Logis de Bru.
Et ce dimanche, au tout nouvel antipode de l'impro. La compagnie La Morsure est réputée pour explorer différentes formes artistiques, théâtre, musique, danse, art plastique, performance. Elle utilise l'improvisation dans un cadre dramaturgique comme une matière vivante à façonner. Ce cabaret méta est une série de 4 spectacles que vous pourrez retrouver tout au long de l'année et ce dimanche a lieu la deuxième partie de ce cycle. Rendez-vous donc ce dimanche à 17h à l'Antipode.
Ce vendredi, vous pourrez découvrir au Tambour le conte musical Le Conte de la Nuit Noire, mis en scène et joué par les élèves du CFMI, Centre de Formation des Musiciens Intervenants. Sans vraiment en savoir plus, l'affiche est déjà alléchante et l'énergie promet d'être rendez-vous. C'est donc ce vendredi 14 janvier à 20h au Tambour.
Avant d'attaquer la suite de notre émission, on fait une première pause musicale avec Hubert Félix Thiéfen et son morceau « L'ascenseur » de 22h43.
Attention, attention, la concierge se trouve actuellement dans l'escalier. Mais comme elle ne le sait pas, vous êtes priés de ne pas la déranger. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. En provenance de Babylone, les quais seront encombrés de pendus, laissant claquer leurs mâchoires dans le vent. En guise de discours de bienvenue, en guise de discours de bienvenue, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Je ne connaîtrai rien de tes habitudes. Il se peut même que tu sois décédé. Mais je demanderai ta main pour la couper. Mais je demanderai ta main pour la couper. Attention, attention, sur le palier numéro 2, l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone est annoncé. Veuillez dégager le vide ordure, s'il vous plaît, et et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Rien ne sera. Vous êtes toujours dans Tonnerre de Brecht. Nous venons d'entendre l'ascenseur de 22h43 d'Hubert Félix Stéphane. Partons à la rencontre de Daniel Plassard pour son spectacle On ne parle pas avec des mots.
Denis Plassard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Tonnerre de Brecht pour discuter ensemble de votre création On ne parle pas avec des moufles, qui se jouera le 27 janvier prochain à 20h au Tambour sur le campus de Rennes 2 dans le cadre du festival Waterproof. Ce spectacle, vous l'interprétez à deux, Anthony Guyon et vous-même, et vous nous racontez, en interpellant le public oralement et gestuellement, la rencontre entre un sourd et un entendant bloqué dans un ascenseur. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la langue des signes et vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez une telle fascination envers elle?
Bon, mes premières rencontres avec la langue des signes, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, hein, c'est la télévision et puis les traducteurs qu'on voit dans un coin de l'écran. Et ensuite, la première vraie rencontre avec la langue des signes, en fait, ça a été un spectacle que j'ai vu, c'était il y a longtemps, hein, je dirais une vingtaine d'années, qui était tout en langue des signes. Et c'est parce que c'était un ami metteur en scène qui avait travaillé avec une équipe de comédiens sourds. Et j'avais été vraiment fasciné, très très surpris, parce que bêtement, je m'attendais à un spectacle, parce que c'était des sourds, je m'attendais à un spectacle silencieux, ce qui n'était absolument pas le cas, parce qu'il y avait vachement de bruit sur scène. Et en même temps, alors, heureusement, c'était une pièce que je connaissais déjà, donc je connaissais ce qui se passait, l'intrigue, etc. Mais c'était très, très, très fascinant à voir ce côté parler sans, eh ben, sans parole, quoi. Et j'ai toujours, en plus, je travaille beaucoup autour du mouvement et de la relation du mouvement au texte, enfin, depuis le début de mon travail. Et c'est vrai que la langue des signes, elle se positionne tout à fait là. Donc j'ai toujours été fasciné, sans jamais vraiment oser passer le cap, toujours été fasciné par la langue des signes.
Dans vos précédents spectacles, vous dites avoir souvent inventé vos propres codes dans des sortes de langages gestuels. Pourquoi aujourd'hui vous confrontez avec ce spectacle à une langue déjà existante et que, selon vos propres mots, vous ne maîtrisez pas?
Oui, ben, quand on a commencé, c'est vrai, quand on a commencé le travail avec Anthony et donc Géraldine qui était assistante, regard extérieur, qui est une comédienne entendante qui signe, donc qui permettait comme ça de faire le lien. Et c'est vrai, quand on a commencé, je signais pas du tout. J'ai vraiment un tout petit peu appris sur le tas pour le spectacle. Et puis là, maintenant, je fais une formation en langue des signes. Et c'est vrai que cette langue, elle m'a toujours fasciné. Et du coup, souvent, je me rends compte maintenant a posteriori, souvent je me suis amusé à créer des fausses langues des signes, c'est-à-dire à inventer des sortes de petites, dans les spectacles, des petites chansons de gestes, enfin des choses qui se rapprochaient de ce que j'imaginais, enfin en même temps ça en était très loin, je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, enfin des sortes de langages comme ça, voilà. Après, l'envie de travailler sur la langue des signes, en fait, ça a été en fait initié par la rencontre avec Anthony, parce que Anthony a fait la traduction avec Géraldine d'un de nos spectacles dans le détail, qui est un spectacle pour 7 danseurs où il y a une voix off, et puis c'est la Maison de la Danse à Lyon qui nous a proposé en 2019, suite à la création, d'en faire une adaptation en langue des signes. Et encore aujourd'hui, bah, Anthony tourne sur certaines dates avec nous pour cette version en langue des signes. Et en rencontrant Anthony, je me suis dit, bah voilà, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, que je travaille vraiment sur la langue des signes. Et ce qui est vraiment magique avec la langue des signes et qu'on utilise à fond dans le spectacle, c'est qu'on peut superposer deux langues sans aucun problème parce qu'elles n'interviennent pas du tout au même niveau. La langue française, bah, c'est une langue orale qu'on qu'on entend, et la langue des signes, c'est une langue visuelle. Ce qui fait qu'on peut, dans le spectacle, et on joue tout le spectacle là-dessus, en fait, on peut mélanger les deux sans que ça soit une cacophonie. Si on faisait la même chose en anglais et en français, ça serait insupportable, ça serait pas possible. Là, du coup, on superpose deux langues, c'est pas de la traduction simultanée. Anthony dit souvent des choses différentes de moi et inversement. Et ça marche très bien parce que les deux peuvent se superposer sans que ça soit, sans que ça frotte entre les deux du tout. Les entendants me comprennent et ne peuvent que deviner ce que Anthony dit, et inversement pour les sourds.
Comme vous l'avez un peu déjà expliqué, c'est votre rencontre avec Anthony Guyon s'est faite lors de la création d'une version LSF de votre spectacle Dans le détail. Vous définissez le rôle d'Anthony sur ce spectacle comme meneur de jeu et pas seulement comme traducteur. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ce qui est très différent dans les deux projets, entre Dans le détail et On ne parle pas avec des moufs, c'est que Dans le détail, le spectacle existait, il avait déjà quelques mois et on avait déjà fait quelques représentations quand on a travaillé cette version adaptée. Et il y a une voix off, qui est la voix d'une sorte de meneur de jeu. Dans le détail, c'est un jeu d'enquête, les spectateurs doivent trouver qui est coupable. Et donc, on entend une voix qui guide les spectateurs, qui explique le jeu au départ, la règle du jeu, et puis qui fait des sortes d'interviews des danseurs pendant le spectacle. Et du coup, quand on a intégré Anthony dans le spectacle, eh ben, ça a marché très naturellement parce qu'il traduit une voix qui n'est pas matérialisée. Et du coup, c'est lui le meneur de jeu. Et même pour les entendants, en fait, il a une vraie place dans le spectacle. Les gens qui voient le spectacle avec Anthony dans cette version en langue des signes, bah, ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir une autre version avec juste une voix off, tellement finalement il a pris sa place dans le spectacle. C'est dans ce sens-là où il n'est pas juste dans un coin, traducteur, il prend vraiment une vraie place, parce qu'il y avait un vrai, en fait comme la voix était enregistrée, il y avait un vrai rôle à prendre.
Et pour en revenir à On ne parle pas avec des moufs, pourquoi on peut dire que ce spectacle-là, même si vous avez déjà un peu répondu à la question, c'est un spectacle deux en un?
Oui, c'est tout le challenge de ce spectacle, c'est que c'est un peu comme deux stand-up, deux one-man show, au même moment, au même endroit, tout petit l'endroit, puisque c'est un ascenseur de 4 mètres carrés, mais parfaitement synchronisé, exactement en même temps. Et pourtant, on fait chacun, quelque part, on fait chacun notre show, et on a, quelque part, chacun notre public. Je parle aux entendants, Anthony parle aux sourds. Et voilà, donc c'est vraiment deux en un, c'est comme la superposition de deux spectacles simultanés, mais malgré tout, on raconte la même histoire, quoi. Et là où ça me passionne, là où c'est vraiment très, très excitant, ça a été très excitant à créer, c'est que tout fonctionne parfaitement entre nous deux, alors que Anthony ne m'entend pas, moi je comprends pas la langue des signes, c'est l'écriture du mouvement, c'est la chorégraphie quelque part, même si on fait pas des grands jetés dans tous les sens, c'est la synchronisation parfaite entre nous deux, quoi. C'est-à-dire que c'est une mécanique hyper bien huilée, et malgré tout on est chacun dans notre dans notre univers, quoi.
Du coup, si je comprends bien, nous, spectateurs entendants, moi en tout cas, il y a des choses chez Anthony Guyon qui vont m'échapper.
Totalement, absolument. Il fait de... Alors, les entendants devinent, en plus le rapport à l'humour, l'humour sourd n'est pas le même que l'humour des entendants, c'est un humour beaucoup plus visuel, mais Anthony se moque de moi en permanence, il fait des blagues sur mon dos, c'est le cas de le dire, tout le temps, quoi. Et inversement, moi je fais de l'humour qui est plus de l'humour entendant, et en permanence, quoi. Et les gens, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une des deux personnes qu'on comprend très bien, et l'autre, on ne peut qu'essayer de deviner, essayer de sentir. Et j'aime bien la superposition des deux, c'est-à-dire de ce qu'on comprend et de ce que, parce que la danse se place exactement à cet endroit-là, quand on voit du mouvement, quand on voit un danseur sur scène, on comprend pas, enfin, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de code, on peut pas deviner, enfin, ça dit rien de précis, et ben là, c'est exactement la même chose, les entendants regardent Anthony, ils passent leur temps à essayer de deviner ce qu'il dit. Et d'ailleurs, à la, suite au spectacle, on est en train de le faire, parce que c'est un petit peu long à faire, on va mettre en ligne, pour les gens qui ont vu les spectacles, une version où on pourra voir pour les sourds une version sous-titrée de mon texte et pour les entendants, une version avec une voix off qui dit précisément ce que dit Anthony pour que, a posteriori, si on a envie, on puisse découvrir la face cachée, quoi, ce qui nous a manqué.
Vous êtes deux sur scène, mais vous avez été trois à monter le spectacle avec la complicité de Géraldine Berger, dont vous avez parlé en début d'entretien. Vous la citez comme un œil extérieur. Et quel a été son rôle dans la création ?
Ah bah c'était un rôle, ça a été un rôle essentiel du début à la fin, parce que pour de vrai, et c'est là où c'est magique, c'est-à-dire on a créé le spectacle exactement comme on le raconte, c'est-à-dire c'est pas vrai, on s'est pas rencontré en vrai dans un ascenseur, mais on a vraiment vécu, enfin l'ascenseur symbolise en fait ce qu'on vit dans une rencontre entre un entendant et un sourd, où en fait pour lui je suis un poisson rouge qui bouge la bouche et qui, voilà, il n'entend pas ce que je dis, inversement pour moi la langue des signes c'est un code que je ne comprends pas, donc la présence de Géraldine elle était essentielle déjà pour nous relier, parce qu'on était vraiment dans, voilà, dans cette difficulté à communiquer entre nous deux, et Géraldine et Anthony ont une énorme complicité, ils travaillent ensemble depuis longtemps, et pas que, c'est-à-dire que Géraldine nous a concrètement aidés à, dans la traduction, etc., dans la communication entre nous, mais pas que, elle a l'avantage, Géraldine, d'avoir ce double regard, c'est-à-dire elle est capable de voir le spectacle, le duo, à la fois avec l'œil des entendants, puisqu'elle est entendante, enfin avec l'oreille des entendants, et puis l'œil aussi, et l'œil des sourds, c'est-à-dire elle peut se rendre compte complètement de la cohérence de la partition d'Anthony du début à la fin. Si par exemple, j'avais demandé un regard extérieur, une répétitrice ou un répétiteur entendant, et ben personne, enfin il y avait Anthony, elle n'avait personne comme voilà comme relais pour la cohérence de la langue des signes, etc., de ce qu'il dit, de son personnage, etc. Donc Géraldine, elle a eu un œil voilà vraiment essentiel et précieux, et tout a été après entre nous trois. Donc c'était vraiment une cuisine à trois, entre nous trois, de discussions, d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre tout, voilà, pour trouver, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un vrai équilibre entre nous deux, entre ces deux personnages, mais aussi entre ces deux langues, entre la langue des signes et le français, et c'est pas, on l'explique un tout petit peu au début du spectacle, c'est pas une traduction, c'est-à-dire c'est pas un spectacle adapté, j'aime pas trop ce mot et Anthony l'aime pas non plus, c'est pas un spectacle adapté en langue des signes, ce qu'on a quand même un peu fait avec dans le détail, c'est pas un spectacle adapté en langue des signes, c'est un spectacle dès le début, pensé, conçu, bilingue, totalement bilingue.
Il y a aussi Dominique Rio qui fait partie de votre équipe artistique et il est à l'origine de la création lumière et de la scénographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour les auditrices et les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu ?
Oui, alors c'est très important. C'est vrai que c'est un challenge pour Dominique parce que en même temps, dès le départ, je lui ai dit que je voulais quelque chose de très simple, très brut pour qu'on puisse jouer partout. Puis j'imaginais comme ça, vraiment juste, je voulais pas de gros décors, pas de grosses lumières et qu'en gros, tout se résume à deux personnes dans un petit espace, Anthony et moi, et basta. Et donc, on a imaginé ensemble, à force d'expérience, ce dispositif extrêmement simple où il y a un sol qui représente l'ascenseur, qui fait plus ou moins 2 mètres par 2. Et puis, au-dessus de nous, un plafond de lampes, un peu comme il y a des néons dans les ascenseurs. Là, voilà, c'est un plafond de LED, enfin, une lumière comme ça, très, très homogène, un peu froide, légèrement incliné pour qu'on le voit du côté des spectateurs. Voilà, et puis c'est tout. Enfin, une petite rampe de lumière qui nous éclaire en face. Et ce dispositif vraiment extrêmement, extrêmement simple crée comme ça un petit univers. Et c'est le challenge que Dominique a réussi à relever, c'est de créer un univers avec pas grand-chose, quoi.
Est-ce que le fait de créer un spectacle techniquement aussi léger est fait pour l'emmener vraiment partout et le montrer au plus grand nombre.
Oui, c'était vraiment l'idée de ce spectacle, c'est pour pouvoir. L'idée était vraiment de pouvoir le jouer partout et aussi parce que, en fait, forcément, on ne s'adresse pas à des très grandes salles, c'est pas possible. C'est pas possible de le jouer devant 2000 personnes, ce spectacle, tout simplement parce que 2000 personnes, bah, ceux qui sont au fond, si c'est des sourds, ils voient absolument pas les signes d'Anthony. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une échelle qui est forcément à taille humaine. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah, tiens, tant qu'à faire, faut faire un spectacle qui peut jouer vraiment partout. Bah, par exemple, on l'a joué vers Besançon. En décentralisation, dans une salle des fêtes, il y avait un petit gradin, tu sais pas, de 150-200 places, et puis voilà, on a planté la structure là, et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport, oui c'est ça, de vision à taille humaine, et qui est indispensable. C'est pas possible, voilà, c'est sur une grosse scène vue de très loin, ça marcherait pas.
Dans le dossier artistique, la durée du spectacle est indiquée. Elle est d'1h02 et 51 secondes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à ça?
J'aimais bien cette précision, du tout, surtout qu'elle est absolument intenable, puisqu'il n'y a, a rien d'enregistré. Il y a pas de... Et ça aussi, c'était un choix fort du départ. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre pour un spectacle de danse, il n'y a pas de musique du tout. Donc, il n'y a pas une bande-son qui dure justement une durée extrêmement précise. C'est du texte en langue des signes et du texte en français. Donc, il y a une petite variable d'ajustement. Mais j'aimais bien, dans la mesure où, où on est enfermé dans un ascenseur, j'aimais bien, voilà, j'aime bien donner une durée très précise comme ça. Comme voilà, les portes vont s'ouvrir à une heure précise, quoi, au bout d'un temps extrêmement précis. Et malgré tout, on est assez précis. Ça dure vraiment une heure, deux à peu près, à quelque chose près.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas. On se retrouvera à Waterproof.
On rappelle que ce spectacle se joue le 27 janvier à 20h au Tambour sur le campus de Vignes-Jean dans le cadre du festival Waterproof. Merci Daniel Passard d'avoir répondu à nos questions.
Wang, qui est avec nous ce soir en studio, nous propose un récap du festival TNB. On le retrouve juste après le morceau It's Like That de Run MDC et Jason Nevins.
Across the
c'était Run MDC et Jason Nevins avec le morceau It's Like That. Vous êtes bien sûr dans Syllab, sur Syllab et dans Tonnerre de Brecht.
Le festival TNB a encore accueilli en 2021 des milliers de spectateurs et il y en a un parmi nous ce soir. Wang, nous t'écoutons.
Bonjour, bonjour Léa, bonjour Martha.
Bonjour.
Bonjour. Oui.
Spectateur du festival TNB, j'ai des choses à partager sur mes rencontres avec les œuvres. Quelques-unes se trouvent dans ma liste des expériences personnelles les plus révélatrices pour 2021. Je voudrais préciser que seule une petite sélection des œuvres va être abordée, particulièrement parce que celles-ci s'inscrivent dans mon rétablissement psychologique qui consiste dans un exorcisme du doute et crise de jeunesse.
La première œuvre dont tu souhaites nous parler est « La nuit tombe quand elle veut » de Latifa Labissi.
Oui. Commençons avec « La nuit tombe quand elle veut » de Latifa Labissi et Marcelo Evelyn. Le jour qui précède ma confrontation avec l'œuvre, Mathilde, reporter de Syllab, m'a pris comme stagiaire pour une interview avec ses deux chorégraphes. La paix, d'après eux, s'attache par nature à l'invisible. La nuit tombe quand elle veut, en ce sens, cherche à véhiculer le sens de l'acte de se faire disparaître. Se faire disparaître, les médias qui partagent l'obsession universelle pour le déploiement de soi, ça pourrait assurer à l'individu sa paix à l'esprit. Cette pièce, telle qu'elle est comme une performance chorégraphique, pour autant, ne permet pas de cerner cette intention facilement. Les artistes sont habillés jusqu'à couvrir le visage, mais rien d'autre que ça semblait rejoindre l'idée de la disparition. Je m'étais laissé transporter quand même par le travail d'éclairage et la musique assez dense, qui se perçoit comme un chant de sortilège sur une alternance de jungle et d'ambiance techno. Les interactions que les danseurs faisaient avec le public semblaient avoir gêné plus d'un, mais ça m'a fortement intrigué.
Et une seconde œuvre t'a interpellé, c'est le spectacle « Mes parents » de Mohamed El-Khatib avec la promotion sortante des élèves du TNB.
Oui, cette pièce très émouvante m'a fait me rappeler de pourquoi j'adore tant ma mère. En regardant les élèves de l'école de la TNB décrire, imiter et caricaturer leurs parents avec de l'humour, de la créativité et des fois un air de reproche, au fur et à mesure, je me suis rendu compte du fait que les jeunes comme moi, nous avons besoin d'attention, d'amour et d'être écoutés. Et nous attendons que nos parents nous en donnent à tout moment. Du coup, si vos parents sont contents de vous le faire en permanence, s'il vous plaît, chérissez ce moment.
Enfin, tu voulais nous parler de Wild Minds, dont on a assez peu entendu parler durant ce festival.
En anglais, ça se dit Wild Minds.
Wild Minds, ok.
T'inquiète. Okay. C'est pas grave, c'est mignon. Ça. Cette pièce, quant à elle, a aussi eu un impact sur ma vie, mais d'une façon bien plus introspective. Présentée comme une discussion confessionnelle, la mise en scène mêle les spectateurs aux comédiens de façon à créer un beau grand cercle en plein milieu de la salle Parigot du Théâtre National de la Bretagne. Ça renforce l'immersion d'assister à une séance de thérapie groupée. Personne dans l'audience n'a spontanément participé à la pièce, du moins c'était le cas pour ma séance. Mais l'auto-identification forte au personnage m'a quand même tenté de lâcher les mots. Désigné sous le terme de rêverie compulsive, ce trouble mental porte entièrement la pièce et était explicité par le biais de cinq passions qui vivent quotidiennement avec leur inter-ego. L'une se crée une identité de scénariste, l'autre fantasme sur une vie de célébrité. Celle en qui je me retrouve le plus, cependant, est la patiente souffrant dans sa jeunesse de conflits permanents de et avec ses parents. Cette douleur nourrit son imaginaire, rempli de personnages vivant en boucle, des tortues physiques et des survivances miraculeuses. White Mice, en ce sens, m'a fait réaliser qu'avec le théâtre, notre capacité d'imagination nous permettrait de nous voir dans des identités et des perspectives très différentes de la réalité existante. S'il avait un moyen à faire l'équilibre entre tous ces fantasmes et le rythme quotidien, l'individu réussirait à nourrir son âme des inspirations en pouvant s'entendre très bien avec les autres. Bref, le festival TMB a constitué de très belles surprises et de belles rencontres avec les artistes de la Bretagne. J'ai donc hâte de la prochaine édition en 2022. En attendant, le festival Waterpro promet aussi de belles découvertes. Rendez-vous à Rennes entre le 26 janvier et le 6 février 2022.
Merci Wang pour cette chronique qui est, je l'espère, la première d'une longue série. Et en effet, on se retrouvera à Rennes pour le festival Waterproof.
Je vous en prie.
On se retrouvera à Rennes du coup pour le festival Waterproof le 26 janvier et le 6 février. C'est maintenant la fin de cette émission.
Tu veux dire qu'on arrête là ?
Oui, mais ce n'est que pour mieux se retrouver, comme dirait ton papy René.
Ouais, mais papy René, on n'est jamais sûr de le retrouver.
Cette émission à l'humour de bon goût et aux animateurs et animatrices séduisants et séduisantes s'achève ici sur cette blague dont on peut clairement saluer la finesse.
Merci Adèle d'avoir réalisé cette émission.
Merci à Wang pour cette chronique.
Et merci à Daniel Plassard qu'on retrouve le 27 janvier dans On ne parle pas avec des moufles à l'occasion du festival Waterproof.
Bonne année.
Bonne santé.
Plein de théâtre et des bisous.
Les acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.